juste, je voudrais commencer en remerciant d'abord les organisateurs de ce colloque qui me permettent de m'exprimer aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi les organisateurs de cette journée sur la question du corps. Donc la réflexion que je vous propose ce matin prend appui sur une recherche en cours qui est très récente et qui est financée dans le cadre du programme de recherche interdisciplinaire Ville et environnement du CNRS qui fait collaborer depuis juillet 2009 trois équipes de recherche, le Laboratorio Urbano de la Faculté d'Architecture de Salvador de Bahia, en lien également avec le programme de master de l'école de danse de la même université, le Centre Léa Robach de l'Université de Montréal et le Laboratoire Cresson de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Donc le travail, vous l'avez compris, vient à peine de débuter. Nous avons fait notre premier workshop la semaine dernière à Salvador de Bahia. Donc il ne s'agit pas pour moi de vous livrer ici des résultats d'analyse, mais plutôt d'essayer de vous faire part d'une réflexion en cours sur la manière d'articuler dans une même démarche un travail à l'échelle de la ville, des ambiances urbaines, et un travail à l'échelle du corps, et plus précisément du corps en marche, puisque certains le savent dans cette assemblée, mon propos à l'heure actuelle est précisément d'interroger cette question de la marchandise. Alors, notre sujet commun de réflexion concerne les procédures d'aseptisation des espaces publics, et plus particulièrement des espaces piétons, qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les métropoles urbaines. Alors, nous sommes partis d'un constat qui est le suivant. Les nouvelles préoccupations environnementales et de santé publique, comme, et c'est peut-être un petit peu plus vrai ici au Brésil, comme la volonté affichée d'un apaisement des mobilités urbaines, bouleversent à la fois le paysage de nos villes, les ambiances urbaines, bien sûr, les conduites des piétons et, parmi elles, leur manière de marcher. Concrètement, on peut repérer trois processus d'aménagement, alors qui ne sont probablement pas les seuls, mais en tout cas, ces trois-là me semblent peut-être communs aux trois terrains qui vont occuper cette recherche. Le premier, et je m'excuse auparavant pour le néologisme, concerne ce qu'on a appelé l'étanchéification des flux de déplacement. Alors, vous le savez, beaucoup de municipalités en Europe et en Europe et sur le continent nord-américain aujourd'hui œuvrent en faveur du développement de ce qu'on appelle les modes de transport dits doux. Alors, on assiste bien sûr au retour du tramway, mais aussi au développement d'un certain nombre d'actions concrètes en faveur de la pratique du vélo et de la pratique de la marche à pied. Alors je pense au développement des systèmes de location de vélos en libre-service, je pense à la mise en place des pédibus aux abords des écoles, et je pense aussi à la création de ce que l'on appelle en Europe des zones de rencontre, qui sont en fait des aires de déplacement mixtes, vélos, piétons et véhicules routiers, mais où la priorité est donnée aux piétons et où la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Or, ces nouvelles mesures en faveur d'une pacification de la mobilité urbaine se traduisent bien souvent, et vous pouvez le voir sur les photos derrière moi, par la création de ce que j'appelle des couloirs étanches de circulation. J'en avais un exemple probant sur deux des photos, qui font non plus se mêler les différents modes de circulation, mais bien se juxtaposer ces différentes modalités du déplacement en ville. On le voit notamment sur cette photo ici. Je trouve mon curseur. où on a en fait la voie vélo, puis la voie piéton, puis la voie dédiée au tramway et à côté la voie dédiée à la circulation des voitures. Cette question de l'étanchéification des flux de déplacement pourrait être posée probablement ici au Brésil en deux termes peut-être plus sociaux, puisque nous avons pu constater la semaine dernière, d'une part, que le partage de la rue restait assez cloisonné, les classes moyennes et aisées la fréquentant plutôt en voiture, et les classes les plus défavorisées la circulant à pied, faute d'un moyen de déplacement disponible. D'autre part, parce qu'il nous a semblé aussi que de nouveaux espaces sont créés aussi ici au Brésil, pour peut-être pacifier des conflits latents et pour peut-être, là encore, proposer de potentielles zones de rencontre, comme on l'a vu sur la photo précédente avec les shopping centers. Alors, ce premier processus d'aménagement de la ville se double bien souvent d'une tendance à la végétalisation et à l'esthétisation des espaces piétons. Alors, la végétalisation, bien sûr, est effective et parfois intempestive ici au Brésil. On le voit sur les photos à gauche de l'écran. En France et en Europe, l'arrivée du tramway s'accompagne bien souvent de ce qu'on appelle des coulées vertes, la plantation de coulées vertes, et d'une sorte de décorum urbain qui est fait de mobilier et de signalétique, qui souvent surligne les informations visuelles déjà existantes. On se retrouve aussi face à des opérations de requalification des centres-villes qui ne se font plus sans des plans de florissement et qui sont là aussi, bien sûr, censés embellir le cadre de vie, mais surtout apaiser les tensions dues à la vie urbaine, comme si le végétal avait un potentiel d'apaisement sur la vie urbaine. À ce second processus d'aménagement s'en ajoute un troisième que j'appelle l'aplanissement des surfaces de la ville. Les métropoles s'engagent actuellement dans un vaste mouvement de mise en accessibilité des espaces publics urbains et je crois que c'est le cas ici aussi au Brésil, Regina pourra peut-être nous le dire, qui se traduit à la fois par un gommage des obstacles, mais surtout des aspérités au sol, par un abaissement des niveaux de pente, par une exigence de continuité entre les différents espaces publics, et là encore, par un redoublement des informations sonores et visuelles, voire tactiles, qui sont données aux piétons. Or, ces nouveaux aménagements, et c'est la question que nous nous posons, ne sont pas sans incidence sur les cadres sensibles de notre vie urbaine, pour reprendre une expression chère à Jean Zimone, et sur les mobilisations corporelles quotidiennes du piéton. Nous faisons en fait l'hypothèse que ce mouvement d'aseptisation des espaces publics urbains conduit non seulement à une forme de torpeur de la vie urbaine, alors par torpeur, par émoussement des chocs perceptifs et par brouillage des impressions sensibles, mais aussi à un affaiblissement des possibilités d'ancrage corporel du piéton. Alors, je m'explique. Cette évolution des pratiques aménagistes agit sur les registres sensibles de l'expérience urbaine, et modifie de notre point de vue les manières dont les piétons se conduisent dans l'espace public et partagent ensemble ces espaces urbains. Alors nous faisons l'hypothèse que le registre qui est probablement le plus affecté aujourd'hui par ce mouvement d'aseptisation et qui est un registre qui a été assez peu abordé par la problématique des ambiances urbaines, qui a par contre été abordé par Marc Prenel, qui est ici présent, ce serait le registre tactile. Pourquoi ? Parce que ce mouvement d'aseptisation des espaces publics urbains accorde une primauté au flux plutôt qu'à l'ancrage des corps, à la, ce qu'on appelle la mobilité durable, à l'aplanissement et au lissage des surfaces, et que de fait, il modifie probablement les conditions mêmes de mise en jeu de notre perception haptique et proprioceptive. On voit par exemple apparaître de nouveaux comportements en matière de marche, peut-être typiques de cette modification des ambiances urbaines en ce début de 21e siècle, ce que j'appelle la glisse urbaine, qui est une manière de marcher tout en fluidité et tout en apesanteur, où le corps du piéton est finalement dirigé dans un mouvement vers l'avant de pénétration de l'air, où l'équilibre du corps se joue à même la pointe des pieds et à même l'oblique du buste. Une autre forme de marche en ville ou de registre de marche en ville qui serait peut-être son contraire et que je vous propose d'appeler en tout cas provisoirement le soubresaut ou la trépidation, qui est fortement imagée par tous ces piétons que je me permets d'appeler des écolos nomades urbains qui poussent, tirent, soulèvent, raclent sur le sol tous ces nouveaux accessoires de la marche à pied que sont devenus les cabas à roulettes, les valises à roulettes, les vélos suiveurs ou pour les plus âgés, les déambulateurs. Il y aurait peut-être aussi une autre forme de déambulation dans la ville, de marche à pied en ville, qui conduirait à une forme d'appareillage du piéton. Et je vous propose une photo un petit peu emblématique de ce qu'on a pu voir la semaine dernière lors de notre workshop et d'un travail de terrain sur un shopping center. Entre nous, nous avons appelé le personnage que vous voyez au fond là, ici, le Robocop, qui est en fait quelqu'un qui est sur une espèce de plateforme électrique qui se dirige à tous les étages du shopping center, alors je suppose pour surveiller, pour aider, enfin voilà. On a peut-être une apparition là encore de nouvelles façons de se comporter et de bouger dans l'espace public. Le second registre qui serait directement touché par cette tendance à l'aseptisation des espaces publics urbains, ce serait le registre olfactif. Alors, dans ce domaine, la tendance actuelle elle est soit la neutralisation des odeurs dans l'espace public, soit ce qu'on appelle la signature olfactive des lieux. Mais dans les deux cas, cette forme de lissage des ambiances olfactives conduit, de notre point de vue, à une fadeur généralisée de nos cadres de vie et probablement à une atonie de notre perception olfactive. Or, et nous reprenons là encore une des thèses de Simmel, il semblerait que cette atonie puisse peut-être favoriser une forme de réactivité plus ou moins grande du public lors d'événements olfactifs particuliers. Je pense par exemple à des phénomènes de surodorisation des espaces publics en période de forte affluence qui peuvent engendrer des sensations de stress, des sensations de dégoût, d'écœurement, et peut-être des comportements de malaise, d'agressivité. Dernier registre touché par ce phénomène d'aseptisation et sur lequel notre travail porte également, le registre sonore et visuel. La tendance, je l'ai dit, est à, paradoxalement là, à la surenchère des informations. La couleur fait son apparition dans l'espace public et elle redouble bien souvent la signalisation liée aux zones de déplacement qu'on appelle monomodales, les répétiteurs de feux sonores qui étaient autrefois bannis pour des questions de gêne en période nocturne sont de plus en plus réutilisés pour sécuriser les traversées piétonnes et on peut se demander si cette surenchère conduit réellement à de l'information ou si elle n'est pas plutôt une source de brouillage pour les piétons. Autrement dit, ce vaste mouvement d'aseptisation des espaces et des ambiances urbaines crée peut-être de nouveaux modes d'attention dans l'espace public et de nouvelles corporéités qu'il s'agit pour nous d'observer malgré le peu d'outils dont on dispose, malgré le peu de vocabulaire dont on dispose, et bien sûr de rendre intelligible. Alors, c'est dans cet objectif que je propose, dans le cadre de cette recherche et sur les trois villes qui accueillent notre travail de terrain, à savoir Salvador de Bahia, Grenoble et Montréal, un travail en trois temps qui place le corps en marche, et notamment le corps du chercheur, au cœur même de la méthodologie d'enquête. Ces trois temps, je les ai dénommés de la façon suivante: faire corps avec les ambiances urbaines, prendre corps avec les ambiances urbaines, et le troisième temps, donner corps avec les ambiances urbaines. Alors, faire corps. Il s'agit dans ce premier temps de revenir à une approche peut-être plus ethnographique du terrain, en privilégiant l'immersion, mais l'immersion longue, comme méthodologie d'enquête, et en faisant du corps du chercheur le principal outil de recueil de données sur les ambiances urbaines. Il s'agit en fait, dans ce premier temps, de se laisser embarquer, de se laisser éprouver par les ambiances de la ville, de les éprouver à même notre corps de chercheur. Alors, pour cela, nous proposons de marcher sans but dans nos différents quartiers d'études. Dans ces cas-là, le parcours n'est jamais prédéfini pour chaque enquêteur. Nous avons simplement un point de départ, un point d'arrivée et un point de départ et une durée de parcours. Puis chaque enquêteur part à la découverte du quartier, de ses ambiances, de son tempo, avec pour consigne de se laisser guider par le terrain, mais de faire attention à la façon dont son corps est mis à l'épreuve au cours de cette expérience. Donc, les outils dont on dispose sont simplement un journal de bord sur lequel on note nos impressions à l'issue du parcours. Autrement dit, il s'agit dans cette première phase d'enquête de réadopter l'attitude du flâneur. Paola parlerait plutôt de l'errance. Nous expérimenterons probablement la glisse urbaine à Montréal pour s'imprégner des ambiances urbaines, pour également essayer de comprendre comment les cadres sensibles peuvent affecter notre corps. Second méthodologie d'enquête, prendre corps, second temps plutôt d'enquête, prendre corps avec les ambiances urbaines. Alors, il s'agit là non seulement de se frotter à la matière sensible de la ville, mais aussi de travailler la plasticité de nos corps. Alors, pour cela, il nous a semblé nécessaire de procéder par biais, mais ces biais sont différents suivant nos terrains d'enquête, suivant les villes dans lesquelles nous mettons en œuvre nos protocoles méthodologiques. À Salvador de Bahia, la semaine dernière, l'idée était de mettre à profit notre position d'étranger au sens zimmelien du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui est à la fois dans le groupe et à l'extérieur du groupe, pour observer les comportements des Bayanais dans deux lieux de commerce à l'ambiance très différente, le marché San Joaquin et le shopping center. Et pour prendre corps, nous avons dû d'abord nous plier aux usages corporels de cette ville, de ces espaces, qui consistent d'abord à se désaccessoiriser, c'est-à-dire enlever d'éventuels bijoux, ne plus porter de sac, laisser ses bras ballants, laisser ses mains vides, au point de ne plus savoir quoi en faire. Et une autre façon de prendre corps était aussi de s'enduire le corps, s'enduire de crème solaire, s'enduire de répulsifs pour lutter contre les ardeurs du soleil et des moustiques au Brésil. une seconde, un second pied que nous proposerons au mois de décembre à Grenoble, et qui est un biais que je travaille depuis quelques années maintenant, qui consiste à se mettre en situation de handicap en ville, en faisant l'hypothèse que cette expérience déstabilisante nous aide non seulement à mieux ressentir, mais aussi à mieux verbaliser ce que nous éprouvons à même nos corps. L'hypothèse, c'est que le détour par le handicap peut révéler des conduites nouvelles et des pans de l'expérience sensible habituellement peu verbalisés. Alors, je fais vite parce que je crois que je suis en bout de temps. Trois protocoles ont été testés lors de travaux antérieurs et nous les retesterons à Grenoble. Le premier, qui est le plus commun, consiste à circuler en situation de handicap visuel. Mais pas simplement en situation d'aveugle. Bien sûr en situation d'aveugle avec un bandeau noir qui occulte la vue, mais surtout en situation de malvoyance. Et cette situation de malvoyance, elle est simulée par le port d'un certain nombre de lunettes qui simulent, alors par exemple, la vision tubulaire, qui est caractéristique d'une vision en forme de trou de serrure. Vous n'avez plus du tout la vision périphérique. À l'inverse, la vision périphérique sans la vision tubulaire, et vous avez là la perte des contrastes et la perte des reliefs, et la vision de ce qu'on appelle la cécité du second degré, qui gêne l'appréhension des contrastes de luminosité et des contrastes de couleur. En gros, le second protocole que nous proposons consiste à effectuer un parcours en situation de handicap moteur, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et là, ce type de handicap est simulé soit par l'effectuation d'un parcours en fauteuil roulant, soit par le port de lest de jambe. L'idée, c'est de travailler sur la pesanteur du bas du corps. Et le troisième protocole consiste à effectuer le parcours en situation de handicap auditif. Donc pour cela, la personne chemine avec un baladeur audio numérique et un casque qui lui diffuse une bande sonore qui est destinée à provoquer non seulement une situation de gêne dans le sens de difficulté à prendre des repères sonores dans la ville, mais aussi de désorientation. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout de simuler l'écoute qu'a une personne déficiente auditive, mais comme elle, de perturber la capacité habituelle que nous avons, sans nous en rendre compte très souvent, à discriminer les sons de notre environnement et à nous en servir parfois pour nous orienter, anticiper à distance la présence d'autres mobiles et calquer notre rythme de déplacement sur le rythme sonore de la ville. Alors, pour chacune de ces mises en situation de handicap, il est là encore demandé aux personnes qui font l'expérience de prêter attention à leur gestuelle et à leur posture lorsqu'ils marchent. Enfin, troisième temps de notre méthodologie d'enquête, donner corps aux ambiances urbaines. Alors là, compte tenu de la récence du travail, ce troisième temps est encore en gestation, mais l'idée qui le sous-tend, c'est que l'écriture d'un rapport de recherche tel que nous le faisons classiquement dans nos milieux universitaires n'est probablement pas la meilleure voie ou en tout cas la seule façon de rendre compte de cet arrière-plan corporel à l'œuvre dans l'expérience urbaine, et on revient probablement à cette question de la traduction que posait Margaret tout à l'heure. L'idée pour nous, c'est d'essayer de trouver d'autres supports d'expression, d'autres moyens pour rendre intelligible le corps dans la ville. Alors, des travaux plus anciens sur l'accessibilité des infrastructures de transport m'avaient amené à fabriquer avec d'autres collègues un site internet qui permettait de mettre en résonance des images et du son. Mais on était encore dans l'illustration, de mon point de vue. Plus récemment, on a essayé de travailler à la création d'une série de mini-films. Et on se heurte à la question de l'image, de ce qu'on donne. Voilà, donc là le débat n'est pas du tout tranché pour le moment avec les collègues brésiliens et canadiens. Mais l'idée, c'est bien de travailler sur ces nouveaux supports d'expression, d'intelligibilité du décor. Voilà, je conclue sur des questions plutôt que sur des postures fermées. Nous heurtons aujourd'hui, et le débat n'est pas tranché entre nous, sur des questions qui sont de l'ordre de comment est-ce que, avec ce type de protocole méthodologique, comment je passe de mon corps, de mon expérience, de mon propre corps dans le terrain, au corps de l'autre. Comment je passe de l'un à l'autre. Et on a du mal à trouver une réponse. Une seconde question qui nous occupe et qui fait très clairement débat entre l'équipe brésilienne et l'équipe française, c'est comment précisément penser, ou en tout cas plutôt comment, quels outils utiliser pour penser cet entremêlement du corps et des ambiances que proposait Fabiana. C'est-à-dire qu'on est relativement en accord sur le débat de fond, le souci c'est quels outils on a. Et puis bien sûr, comment passer de l'échelle locale à l'échelle urbaine quand on travaille sur la notion d'ambiance. Voilà.